Deutsche Welle, Économie et développement.
À quoi ressemblera la carte mondiale de la production et de la consommation d'énergie en 2040? On va se pencher sur les prévisions réalisées par l'Agence internationale de l'énergie. Mais tout d'abord, direction la Centrafrique où les producteurs de café doivent faire face à deux défis majeurs. Claire-Marie Kostmann au micro, merci d'être à l'écoute, bienvenue. En République centrafricaine, alors que la campagne caféière touche à sa fin, les objectifs d'exportation sont loin d'être atteints. Seules 1000 tonnes de café marchand sur 4500 prévues ont pu être exportées vers le Soudan ou le Tchad, soit à peine le quart des prévisions. Une maladie qui affecte les caféiers, mais aussi l'insécurité persistante, explique cette baisse de production. Reportage de notre correspondant Jeff Murphy Barès.
Voilà. Si quand même, ça ne dépend pas.
Nous sommes dans la petite forêt de l'Ombelampoko, la commune voisine au sud de Bangui. Le jeune cultivateur nettoie la plantation de Dimanche Nangali, 42 ans, planteur de café. Il fait partie de ceux qui n'ont pas fait bon marché cette année, malgré ses 4 hectares de planting. La raison, la plantation est attaquée par une maladie. Dimanche Nangali.
Il y a une race d'insectes avec une longue queue qui attaque les caféiers. J'ai fait le constat sur les jeunes pousses après que des gens ont mis le feu à ma plantation. Les feuilles sèchent d'elles-mêmes. Aucun technicien n'est là pour nous dire exactement ce qui se passe. Voilà la situation dans laquelle je me trouve actuellement.
Quelle est donc cette maladie qui affecte le verger caféier centrafricain? Boniface Dambouti, directeur général de l'office qui supervise la commercialisation des produits agricoles.
La trachéomycose, c'est une maladie dégénérescente du caféier qui est rentrée sur le territoire national à partir de la préfecture du Mbomou. Ça s'est développé depuis la campagne 2008-2009. Et aujourd'hui, cette maladie, on la retrouve aussi dans la préfecture de la Lobaye, donc en passant par les préfectures de la Basse-Koto et du Sud-Ouaka. Ça veut dire que le verger caféier centrafricain est complètement atteint par cette maladie. Et cette maladie, c'est un facteur qui diminue le rendement du caféier à l'hectare.
Mais il n'y a pas que la maladie. L'insécurité reste aussi la principale cause de cette baisse de production caféière cette saison. Cela se remarque dans le centre du pays. M. Dambouti explique.
Au niveau de l'organisation du marché, quand nous avons observé des difficultés, surtout au niveau de Bambari. Parce qu'on peut noter qu'au niveau de Bambari, il y a environ 80% de produits café centrafricains à l'exportation qui sort de ce poste. Et avec les agissements des groupes armés, tous les exportateurs étaient bloqués. Même les opérateurs économiques soudanais qui étaient là n'ont pu faire la campagne.
Cependant, il y a certains planteurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Cas de Jean-Marius Bangué, planteur de café en Baïki, à 107 km au sud de la capitale. Il explique faire des progressions chaque année.
Moi, par exemple, j'ai 10 hectares. Les 10 hectares, j'ai fait un effort pour avoir les 10 hectares. Maintenant, les gens ont abandonné les champs caféiers, mais moi, je suis en train de produire encore de nouveau. Papa a planté une plantation caféière de 2 hectares. À mon retour de Bangui, à l'an 2001, j'ai fait un effort en tant qu'un homme. Maintenant, j'ai 10 hectares de café. C'est comme ça que je suis en train de travailler dedans pour aider la famille.
Un autre phénomène, facteur de démotivation chez certains producteurs, c'est l'absence d'aide. Ils doivent se battre à leur niveau pour assurer leur plantation. Témoignage de Dimanche Nangali.
Cette année, en 2017, les feux de brousse ont ravagé toutes nos plantations. Jusqu'alors, on n'a pas repris les travaux. Beaucoup ont abandonné par manque d'aide. Nous ne bénéficions d'aucun financement ni de produits de traitement. Tu dois te débrouiller tout seul, si bien que beaucoup d'entre nous se sont découragés. Autre problème, les acheteurs agréés n'arrivent plus, si bien qu'on se voit obligé de vendre en détail nos cafés aux femmes revendeuses. On leur fait la demi-cuvette à 3 000 ou 2
500 francs
CFA.
En Centrafrique, le prix du kilogramme de café est fixé au début de chaque saison de récolte par le gouvernement à travers leur CCPA, l'organisme national qui supervise la commercialisation des produits agricoles. Le kilogramme coûte 370 francs CFA par demi-cuvette de 18 kg de café coque, alors qu'il faut le double, soit 36 kg pour le café marchand. Depuis plusieurs années, les prix du café marchand n'ont jamais été revisés par l'État, un manque à gagner pour les planteurs. Le secteur est aujourd'hui délaissé par l'État centrafricain qui n'appuie plus les producteurs, ce qui constitue un grand facteur de démotivation pour nombre d'entre eux. Jeff Murphy Barres Sabongui pour la Deutsche Welle.
Comment limiter à la fois le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique tout en renforçant l'accès à l'électricité dans les pays en développement? C'est le défi sur lequel s'est penchée l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport publié récemment. Selon les calculs de l'AIE, les besoins en énergie augmentent dans le monde, plus lentement que par le passé, mais ils restent importants. En 2040, la consommation énergétique mondiale sera supérieure de près de 30% à ce qu'elle est aujourd'hui. D'ici 23 ans, c'est comme si une Inde supplémentaire et une Chine supplémentaire devaient être approvisionnées en énergie, selon le rapport. Les besoins les plus gourmands seront en Inde, où la consommation fera plus que doubler. En Chine, la demande augmentera de façon moins spectaculaire d'environ 20%. La raison, la prise de conscience des autorités chinoises du problème de la pollution de l'air. Vous avez peut-être vu ces images de Pékin envahi par le brouillard, rempli de particules fines dangereuses pour la santé. La Chine cherche à remplacer progressivement ses centrales à charbon polluantes par de nouvelles sources d'énergie jugées plus propres, dont le solaire et l'hydroélectrique, mais également le gaz naturel. Néanmoins, les Chinois consommeront plus d'énergie par habitant en 2040 que les citoyens de l'Union européenne, selon le rapport. Mais il souligne que trois régions parviendront à réduire leur consommation, l'Europe, les États-Unis et le Japon. Et pour satisfaire les besoins, tous les types d'énergie vont croître, selon les perspectives de l'AIE, et particulièrement les énergies renouvelables, telles que l'hydroélectricité, le biogaz, l'énergie éolienne et solaire, qui connaissent une croissance particulièrement forte. Dans les années 2020, ils remplaceront le charbon en tant que principale source de production d'électricité, selon Laura Cozzi, elle est économiste à l'AIE.
Le solaire, en termes de capacité en place, est en train de devenir ce que le charbon était dans le passé. Une révolution majeure est en route.
Reste qu'actuellement, 40% de l'électricité mondiale provient toujours du charbon, l'énergie fossile la plus polluante. C'est ce qu'a déclaré la ministre canadienne de l'Environnement lors de la conférence de l'ONU sur le climat à Bonn en novembre. Et toujours selon elle, pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris de rester bien en dessous des 2 degrés, nous devons sortir du charbon. Selon l'ONU, plus de 6000 centrales sont en activité dans le monde. Mais Laura Cozzi estime aussi que le coût des technologies vertes ne seront plus un frein à l'avenir pour remplacer le charbon.
Nous avons constaté une réduction considérable des coûts de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Ces technologies sont devenues dans de nombreux endroits les sources les moins chères de production d'électricité.
Autre énergie fossile, le pétrole. La demande d'or noir augmentera d'environ 10% d'ici 2040. Quant au gaz naturel, sa consommation va grimper de 45%. Ainsi, trois organismes étatiques chinois viennent de conclure un accord pour exploiter des gisements de gaz naturel liquéfié en Alaska aux États-Unis. Pékin lorgne aussi les gigantesques ressources de son voisin russe. Les deux pays se sont associés pour un nouveau méga-projet de gaz naturel dans l'Arctique. Ce sont les États-Unis qui vont le plus profiter de ce boom, qui n'est pas sans danger. En effet, la méthode de fracturation pour aller chercher du gaz de schiste provoque des tremblements de terre et des empoisonnements, selon ses détracteurs, mais le Rakoczy est formel.
Nous voyons les États-Unis devenir le leader mondial incontesté du pétrole et du gaz.
Les États-Unis, dont je le rappelle, le président Donald Trump a dit vouloir se désengager de l'accord de Paris sur le climat. Si ces prévisions s'avèrent justes, l'objectif de limitation du réchauffement climatique convenu à Paris ne sera pas atteint. C'est pourquoi l'agence a aussi élaboré un scénario de développement durable, limitant l'augmentation de température à 2 degrés, réduisant la pollution de l'air et assurant l'approvisionnement énergétique dans les pays en développement. Dans cette projection, les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien ou l'hydraulique représenteront un tiers dans le mix énergétique mondial, c'est-à-dire la répartition des différentes sources d'énergie utilisées pour produire de l'électricité. Mais selon l'agence, cela implique de doubler la part de l'énergie nucléaire dans la consommation mondiale d'ici à 2040. L'énergie atomique, malgré les risques et les déchets qu'elle implique, est qualifiée de peu polluante par ses défenseurs. Pour limiter les gaz à effet de serre, l'AIE mise par exemple sur un développement des voitures électriques, 870 millions de véhicules en 2040, et elle assure que le coût ne sera pas un frein. Tim Gould a participé à la rédaction du rapport.
Le besoin global d'investissement serait d'environ 15% plus élevé que dans notre scénario principal. Je pense que le message crucial ici est que le monde n'a pas à choisir entre ses objectifs. Il n'a pas à choisir s'il va faire face au changement climatique ou à un accès universel à l'énergie ou à la qualité de l'air. Une approche intégrée est possible et elle peut mener à la réalisation de ces objectifs en parallèle.
Mais il reste un point essentiel pour que les énergies vertes se développent. Un ingrédient est nécessaire, la volonté politique qui permettra à ces prévisions durables de prendre forme. Merci Andreas Becker pour les interviews. You're welcome to my garden. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez réentendre ce magazine, allez sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci et à la semaine prochaine. We'll